Oui.
Par rapport à la conception de la nature qui n'est pas propre, enfin, pas propre au monde catholique, puisque Aristote en parle déjà, mais aujourd'hui, concrètement, est-ce qu'il y a vraiment dans les débats, enfin, c'est quand même plus particulièrement les chrétiens qui défendent ce point de vue, ou est-ce qu'il y a vraiment d'autres groupes aussi qui ne sont pas chrétiens, mais qui défendent vraiment cette idée de nature, qui osent mettre le mot nature sur.
Alors, le mot nature, en fait, on va en reparler, parce que le mot nature aujourd'hui, indépendamment du christianisme ou pas, à partir, disons, du XVIIe siècle, le mot nature, les sciences de la nature, en fait, sous l'influence de Galilée, de Descartes notamment, ont totalement mis entre parenthèses la question de la finalité. C'est-à-dire qu'en sciences physiques, dans les sciences expérimentales, se concentrent sur les liens de causalité entre les phénomènes, ce qu'on appelle la cause efficiente, à la limite les déterminations matérielles, mais l'idée de finalité apparaît comme non scientifique. Du coup, à partir du XVIIe siècle, on a commencé à considérer que la nature, les phénomènes naturels, les lois physiques n'étaient pas finalisées. Ou on ne pouvait pas en parler, en tout cas. Enfin, je veux dire, peut-être qu'elles étaient finalisées, mais il n'y avait pas possibilité de. Et donc, peu à peu, on a considéré la nature en termes de déterministe, en termes de déterminisme, non finalisé. Et donc, ça c'est un point sur lequel je reviendrai un peu plus tard, mais du coup, la nature, elle est devenue opaque, surtout pour l'être humain, elle est devenue opaque, elle est devenue, comment dire, muette. Et du coup, l'être humain, par rapport à son corps, il a considéré que son corps, à la limite, on peut dire qu'il est naturel, à la limite. Mais ici, la nature, si c'est simplement un ensemble de phénomènes déterminés par des lois biologiques, ben, qu'est-ce que c'est ça? C'est une sorte de substrat qui en lui-même n'est pas vraiment humain, d'ailleurs c'est commun avec les hommes et les animaux, et que justement la grandeur de l'être humain, c'est d'être doué de raison, d'être doué de conscience, d'être doué de liberté, et que c'est à lui de déterminer ensuite ce qu'il va faire de ça. Voyez? Et du coup, aujourd'hui, la notion de nature, elle est absolument inintelligible pour la plupart, et même chez beaucoup de chrétiens, hein, ça c'est pas. Parce que la nature connote simplement un déterminisme qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'orientation, qui n'a pas de sens au sens de signification et qui n'a pas de sens au sens d'orientation, et que du coup c'est à la liberté humaine de se diriger, mais donc c'est à la liberté de trouver sa finalité. Et la finalité, elle va dépendre des valeurs qu'on a. Alors, il y a des gens qui ont des systèmes de valeurs différents et qui vont donner des finalités différentes à ce donné naturel qui en lui-même est muet. Voyez? Donc en fait, il y a tout un grand travail de relecture du corps humain comme étant par lui-même signifiant et comme étant par lui-même signe de certaines aspirations. Voyez? Et donc là, ce n'est pas simplement une question de christianisme ou pas, c'est surtout une compréhension de est-ce que on peut comment dire percevoir dans le devenir une intelligibilité qui permette de l'assumer. Voyez? Et ça, c'est un des gros enjeux, c'est qu'aujourd'hui, la nature est vue simplement comme un donné qui, par lui-même, n'indique rien. Voyez. Alors, nous, si on débarque avec la nature comme ça, de manière un peu naïve, on va apparaître pour des partisans de la biologie, ou. Mais, voyez, la critique d'humanévité, dire, Paul VI, il sacralise le donné biologique. Alors pourquoi? Si l'homme est libre, si l'homme écrase l'image de Dieu, si l'homme est. Pourquoi on va sacraliser la biologie? Vous voyez? Parce que là, il y a tout ce qu'on appelle la loi naturelle. La loi naturelle, justement, on y reviendra demain, mais c'est justement ce que ma raison discerne des finalités inscrites dans la nature. Ça veut dire qu'il y a une potentialité dans la nature. Le devenir naturel, il est orienté. Or, avec une lecture strictement expérimentale et quantitative de la nature, on ne voit plus que des lois de fonctionnement qui en eux-mêmes sont descriptives, mais n'indiquent pas de finalité. Oui. Et du coup, on va dire, pourquoi il faut respecter... pourquoi sacraliser... Alors là, justement, on sacralise le donné biologique. On va dire, dans ce cas-là, la liberté, elle est au service du donné biologique. C'est quand même bizarre pour un être humain. Oui. Et c'est d'où tout le travail de... Je vous rappelle que Jean-Paul II, il est d'abord professeur de philosophie, en termes de formation, justement pour retrouver toute cette inclination naturelle dans le corps. Oui. Donc la nature, justement, elle n'est pas si muette que ça, en fait. Mais encore faut-il l'écouter. Encore faut-il être sur la bonne fréquence pour comprendre ce qu'elle nous dit. Et là, la grande différence, la grande difficulté, c'est que, évidemment, je vais pouvoir aussi être attentif et écouter si j'ai une certaine disposition, si j'ai développé en moi certaines dispositions qui permettent à cette nature relativement indéterminée, comme je disais tout à l'heure avant de finir, de s'exprimer. Sinon, en fait, les inclinations naturelles, elles sont assez discrètes ou elles sont assez plastiques pour s'exprimer par des biais différents. Et donc, si elles ne peuvent pas s'exprimer directement, elles vont s'exprimer autrement. Par exemple, le désir de donner la vie, s'il ne peut pas s'exprimer directement, eh ben, il va s'exprimer indirectement. D'où la revendication à l'homoparentalité. C'est intéressant que les homosexuels revendiquent le fait d'être parents. Ça exprime quoi ? Ça exprime le désir très profond de chaque personne humaine de donner la vie. Et là, de fait, s'ils ne peuvent pas par des voies naturelles, ils demandent à l'État la possibilité de le faire par des voies artificielles. Mais ça correspond, ça dit quelque chose d'un puissant désir antérieur à la liberté, qui est en lui-même tout à fait humain et respectable, qui est le désir de donner la vie. Le désir d'exercer une paternité, une maternité. C'est quelque chose qui est inscrit très profond dans le cœur de l'homme. Donc ça ne veut pas dire que tous les êtres humains le désirent de manière aussi explicite, mais ces inclinations naturelles, si elles ne se déploient pas dans une dimension ou par certaines voies, elles vont passer par d'autres biais. Mais bon, ça, on y reviendra. Ça va ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, j'aimerais maintenant commencer donc une deuxième... Après, donc là, ce matin, on a essayé de prendre conscience, dans ce premier temps, de voir que la question de la sexualité était une question aussi politique. C'est pas que politique, bien sûr, mais ça a une dimension politique, et que ce que nous allons voir dans la théorie du genre n'est pas une nouveauté sous ce rapport-là. Bon. Donc ça, c'était la première, la dimension politique de la sexualité. Je voudrais maintenant rentrer dans une deuxième partie qui va être plus courte et plus... dont le but premier est d'essayer de nous donner quelques approches de ce terme de genre. On dit théorie du genre, idéologie du genre, perspective de genre, théorie du gender, si on parle anglais. Bref, cette notion de genre, qu'est-ce que ça indique ? Donc, deuxième partie, la distinction entre le sexe et le genre. C'est une partie assez courte, un peu descriptive, mais avant d'entrer plus précisément dans la troisième et grande partie qui sera plus longue et qui sera un exposé des présupposés, notamment de Judith Butler et de Michel Foucault. Alors, je vous ai mis deux textes dans dans les polycopiés. Celui de la page 4 et celui de la page 5. Alors, je ne vais pas lire celui de la page 4, qui est un peu long et on n'a pas beaucoup de temps, mais vous pourrez lire à tête reposée. Dans ce texte, l'auteur, qui a écrit un énorme livre sur la question du transsexualisme, je vais revenir sur la question du transsexualisme tout à l'heure, dans son introduction, pose toute une série de questions. Et toutes ces questions, que vous pourrez lire attentivement, donc c'est page 4 dans les textes, sont assez vertigineuses, parce que, en fait, elles permettent de comprendre à quel point la question du transsexualisme a contribué à ouvrir cette perspective du genre. On pourrait dire que ce texte est un modèle de la mise en évidence des présupposés d'un fait médical. Ce fait médical, c'est le vécu d'une personne qui, par exemple, a toutes les caractéristiques physiologiques d'un homme et néanmoins qui se sent une femme, ou vice-versa. Et cette expérience d'un décalage entre ce que mon corps me dit de mon identité sexuelle et ce que je ressens, la manière dont je me vois, tout ce que donc ce décalage, lorsqu'il est pris comme objet d'étude par la médecine, notamment par la psychiatrie, comment ce décalage peut, lorsqu'il cherche à être compris, lorsqu'il cherche à être analysé jusque dans ses principes, comment ce décalage peut ébranler toute la conception de la différence sexuelle. Et ça, c'est un point qui me paraît très important. J'en ai un petit peu parlé ce matin, mais je voudrais revenir là-dessus. À quel point la théorie du genre s'enracine dans des expériences qui pendant des expériences qui pendant très longtemps ont été identifiées comme pathologiques.